là, et ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas pu venir avec Sylvie. Voilà. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Alors, je ne sais pas si on y pense, on ne l'évoque pas forcément toujours, on n'y pense pas forcément, mais c'est important. Voilà, pour nous chrétiens, dimanche des rameaux, donc le dimanche qui précède le Pâques, le dimanche de Pâques. Alors, je vais lire un passage à ce sujet. Je vais lire dans l'évangile de Matthieu, mais c'est un passage, quelque chose, une situation, un événement qui est dans les quatre évangiles. Alors, chapitre 21 de Matthieu, alors on le trouve aussi, je vais le dire tout de suite, donc dans Marc 11, dans Luc 19 et dans Jean 12. Lorsqu'ils approchèrent, alors, et puis aussi, je vais aussi pour expliquer un petit peu ce qu'il en est, c'est un moment où le Seigneur est revenu de Galilée et où il a fait tout un trajet, où on le voit faire son trajet pour revenir à Jérusalem. Il savait que c'était le moment où il allait donner sa vie. Le Seigneur sachant toutes choses, hein. Il n'est pas venu à ce moment-là par hasard et il était avec ses disciples. Et on le voit passer à Jéricho, on le voit passer, monter de Jéricho à Jérusalem, jusque au-dessus de Jérusalem, où il y avait deux petits villages. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il vous laissera aller. Alors tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi plein de douceur et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon et mirent leurs vêtements sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait: Qui est cet homme? La foule répondait: C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Donc, ils approchent de Jérusalem, ils arrivent dans ce petit village. Je ne sais pas, Sylvie, tu peux aller chercher un verre d'eau, s'il te plaît, ce serait gentil. J'ai du mal à parler. En attendant, je vais lire un petit peu dans Matthieu. Là, j'ai lu dans Matthieu, je vais lire dans Luc, au chapitre 19. Chapitre 19. Alors, il y a la même entrée, le même récit, mais il y a deux ou trois petites nuances que je vais lire. Donc, on voit qu'il y a la foule qui est là, qui jette ses vêtements sur le chemin. Et du milieu de la foule, verset 39, du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Il répondit: Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. C'est-à-dire toutes ces personnes qui criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il y a des pharisiens qui disaient, ben, on va les faire taire ceux-là, hein, ça va pas ça, de crier comme ça. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Voilà, ça c'est le Seigneur, hein, c'est sa puissance. Et puis aussi, il y a aussi ce verset qui est touchant, je trouve, verset 41, quand il approcha de la ville et qu'il l'a vu, Jésus, et qu'il l'a vu, Jésus pleura sur elle. Jésus pleura sur elle. Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Et après, il annonce la destruction de la ville. Merci. Merci. Alors, qu'est-ce qui nous frappe dans ce passage. Alors déjà, pourquoi on l'appelle le dimanche des rameaux aujourd'hui? Parce que ça, c'était le dimanche qui était donc une semaine avant la Pâque, et la semaine prochaine, dimanche prochain, c'est le dimanche de Pâques. Et aussi, on voit donc les foules, toutes ces foules-là qui jettent des... Je parle aussi pour les jeunes, hein, pour les enfants. C'est toutes ces foules qui jettent des... Ils vont chercher dans les champs, ils vont chercher des branches, hein, des branches, oui, je sais pas comment c'est dit, là, ils amènent, et ils vont les chercher, ils les mettent sur le chemin devant Jésus. Enfin, c'est pour ça que ça s'appelle le dimanche des rameaux. Alors, ça commence comment au début? Donc, le Seigneur arrive en face de ces deux villages, là, Béthanie et Bethphagée. Et puis, il dit à ses disciples, bah, écoutez, à deux de ses disciples, allez un peu plus loin, là, dans le village qui est devant nous. Et puis, vous verrez une ânesse et puis un ânon qui sont attachés là. Et vous me les amenez. Alors, déjà, mettons-nous à la place des disciples. Déjà. Parce que nous, on est à la place des disciples. Hein. Le Seigneur, il nous donne des choses. Hein. Et puis là, c'est une chose bizarre, une chose difficile. Parce que quelque part, ce qu'il leur disait, c'était, allez, prenez un ânon, un peu comme si là, brusquement, il nous disait, ben, écoute, tiens, là, il y a une voiture qui est garée, ben, vas-y, prends-la et puis amène-la moi. Bon, évidemment, les disciples, c'était pas évident. Donc, ils ont dit, mais... Okay. Mais avant même qu'ils le demandent, d'ailleurs, le Seigneur leur dit, mais si on vous demande quelque chose, vous direz, tout simplement, vous direz, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur, il sait toujours, il savait, il était là, c'était un homme sur la terre, mais il savait. Il savait ce qu'il devait faire, où il devait aller, comment ça se passerait. Il savait il voyait cette ânesse et cet ânon, il savait que ça appartenait à quelqu'un qui le respectait, qui le connaissait et qui serait prêt à prêter. C'était ces animaux. Donc, les disciples, ils obéissent, ils y vont. Ils y vont, même si c'est quelque chose qui leur paraît difficile et où ils se disent, il va peut-être y avoir un problème. Ils y vont quand même. Ça peut nous parler, ça aussi. Ça nous parle parce que des fois, le Seigneur nous demande quelque chose de compliqué, de difficile, ou qui ne paraît pas logique. Et voilà, si on a la conviction, si le Seigneur nous donne cette conviction par le Saint-Esprit, ben, c'est qu'il faut le faire. Et effectivement, ils y vont, et on voit que, peut-être pas dans Matthieu, c'est pas dit, mais on voit dans d'autres évangiles qu'il y a bien le propriétaire qui leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Alors, ils disent tout simplement ce que le Seigneur leur a dit de dire. C'est pas compliqué, en fait. Et ça se passe bien. Ils disent, bon, ben, voilà, le Seigneur en a besoin. Et ils ramènent l'ânesse et l'ânon au Seigneur. Et le Seigneur, il y a quelque chose, je trouve, qui est vraiment touchant, c'est que, Il va pas les envoyer à un endroit où il y a un magnifique cheval, vous voyez, un destrier magnifique, grand, beau, qui présente bien. Voilà ce qu'on se dirait, mais le Seigneur, il lui faut au moins ça pour rentrer dans Jérusalem. Non, oui. Et après, il monte pas sur l'ânesse, il monte sur l'ânon, sur le petit ânon. Et ses pieds devaient presque toucher par terre. Et c'est le roi de gloire, c'est le Seigneur des Seigneurs qui était là sur l'anneau. Il va rentrer comme ça à Jérusalem, le roi des rois. Vous voyez cette humilité? Il est dit, ben, parce que c'est pour que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Ton roi vient à toi plein de douceur, ou humble, il est dit aussi. Humble. Débonnaire, c'est-à-dire bon, extrêmement bon, parfaitement bon. Il est doux, il est bon. Et il vient monter sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'était annoncé dans le prophète Zacharie, c'est-à-dire je ne sais pas combien d'années avant, des centaines d'années avant. C'était annoncé, cette prophétie. Et il fallait qu'elle s'accomplisse. C'était prévu comme ça. Et le Seigneur a fait comme c'était prévu. Et on se dit, cet ânon, s'il pouvait parler, ce qu'il aurait dit. Mais moi, un petit, personne n'est jamais monté sur moi, tout. Et le premier qui veut me chevaucher, c'est Jésus, c'est le Seigneur. Ça nous parle, ça aussi, parce qu'on se dit, le Seigneur, à qui est-ce qu'il s'intéresse? Il ne s'intéresse pas forcément aux plus prestigieux, à ceux qui ont du prestige, oui. Non, il va prendre un petit, il va prendre quelqu'un de faible. Il va utiliser les enfants, souvent les jeunes, les gens, ceux ou celles qui n'ont pas de prestance, ou pas beaucoup d'apparence, ou pas beaucoup de gloire humaine. Un âne, c'est pas terrible, un âne. Moi, mes petites filles qui ont des ânes ou qui connaissent bien, me disent, mais c'est rien de plus têtu, de plus coriace, de plus bête, quand on dit bête comme un âne. C'est bon. Eh ben voilà, le Seigneur, il n'a pas honte. Il n'a pas honte d'utiliser les choses faibles du monde. Il nous a dit, les choses faibles du monde, même pour couvrir de honte les choses fortes. Voilà ce qu'il dit dans, je crois, dans 1 Corinthiens. Ça, c'est aussi quelque chose de beau dans cet abaissement de Jésus qui va jusqu'au bout, quoi. Il s'abaisse, il joue le jeu, si on peut dire. C'est pas la bonne expression, mais il va jusqu'au bout de son abaissement et de son humanité, dans l'humilité. Pas dans l'humiliation, pas dans le dénigrement de soi. C'est pas ça du tout. L'humilité, c'est pas le dénigrement de soi. On n'est pas humble quand on se dénigre sans arrêt. C'est pas ça, l'humilité. Non, c'est beaucoup plus grand que ça. Et le Seigneur, il est resté grand tout en étant petit. Il a été un homme au milieu des hommes, mais il est resté grand. Il était le maître. Il peut, à un moment, il dit à ses disciples, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Mais ça n'empêchait pas que c'était lui, le Seigneur, le roi, le maître. Alors, il monte sur ses talons et puis il descend vers Jérusalem. Y a aussi quelque chose qui m'a frappé dans ce récit, en y réfléchissant. Un roi victorieux, un roi qui arrive pour être couronné quelque part, parce que normalement, ça aurait dû être ça. C'était son entrée à Jérusalem pour être reconnu comme roi et couronné. Et d'ailleurs, il a, de façon éphémère, il a cet honneur, ces cris de joie, cette reconnaissance de la foule, le temps de faire ce petit trajet, c'était quoi, 1 km. Et eh bien, ce qui m'a frappé, c'est que il descend. Pourtant, Jérusalem est en hauteur. Et puis, un roi qui rentre victorieux, on le voit monter. On le voit sur son char, avec ses chevaux. On le voit. Il monte vers la ville. Par exemple, en France, le jour du 14 juillet ou autre, quand le président il défile, il suit ses. Il monte les Champs-Élysées, il va ranimer la flamme, il monte. Il y a un sens qui fait que quand on vient pour être couronné, on monte et lui, il descend. Ça m'a frappé, ça. Je me suis dit, mais vraiment, cette humilité de Jésus, elle a été jusqu'au bout. Il est parti d'un village un peu plus haut, il descend vers Jérusalem. Bon, c'est peut-être, je ne sais pas si ça a une grande signification, mais. Ça m'a frappé, ça aussi. Et puis, donc, il y a quand même, il y a cette foule qui crie. Et alors, il crie, il est quand même reconnu de façon ponctuelle, un court temps, en fait. Il y a ses disciples, il y a les foules qui sont là, et les enfants aussi, les enfants qui crient. Hein. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et alors, j'ai vu en réfléchissant un peu sur ce passage, j'ai lu que, enfin, on l'a fait avec Sylvie, hein, je dis je, mais on était tous pas préparés. Et on a vu que c'était une reprise du psaume 118. Et justement, tu l'as lu ce matin. Et dans le psaume 118, il y a un verset, et c'est de là que le mot Hosanna a été tiré. Et ce verset, c'est le verset 25. Alors, je lis dans la seconde 21, là, mais c'est pareil. Hein. Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Voilà, ce verset, ces deux morceaux. Il y a le verset 25 et un peu du verset 26. Éternel accorde donc le salut. Donc Jésus venait apporter le salut, donne le succès et béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Jésus venait, il était l'Éternel sur la terre. Et tout ça, c'est regroupé dans ce mot Hosanna qui est tiré de ces deux versets. Quand il chantait Hosanna, eh bien, c'est bien ce qu'il fallait chanter pour le Seigneur. Hosanna. Voilà, c'était bien ce qu'il fallait chanter pour lui. Et puis alors, ils font quelque chose. Alors déjà, les deux disciples, ils avaient mis leurs vêtements sur l'anneau. Ils avaient honoré le Seigneur, ils s'étaient dépouillés de leurs vêtements. Ils avaient mis sur l'anneau pour honorer le Seigneur. Ils avaient fait ce geste de se dépouiller de quelque chose pour honorer le Seigneur. C'est un peu la notion de sacrifice. Les sacrifices, c'est quelque chose qu'on fait par amour. On se dépouille de quelque chose, on fait un effort, on fait quelque chose qui peut être compliqué. Et comme, je sais pas, par exemple, Guylaine, quand elle joue du piano ce matin, sûrement, c'est quelque chose qu'elle donne au Seigneur. C'est pas quelque chose qu'elle fait forcément très facilement et ce qui ne lui coûte rien. Quand on vient chanter aussi. Voilà, les louanges, quand on a, pendant la semaine, souvent, on a dit, et c'est quelque chose qu'il faut peut-être répéter, c'est que le culte, c'est pas quelque chose qu'on improvise. Quand on vient le dimanche pour rendre culte, c'est une accumulation de tout ce qu'on a, ce qu'on devrait, en tout cas, avoir recueilli dans la semaine, en lisant la Bible, en priant, en ayant une vie qui honore le Seigneur dans notre quotidien, et qui fasse qu'on a le cœur rempli parce on a le Seigneur, qui nous étreint, qui nous remplit. Et alors, les chœurs chantent et exultent très facilement parce que tout cela, on l'a préparé, on l'a prévu pour le Seigneur, on peut lui donner. Et juste, ce qui est intéressant aussi, on voit dans l'évangile de Jean que cette scène-là, juste avant, Jésus, quand même, il s'est arrêté dans le village de Marthe et Marie, après être arrivé de Galilée. Et Marie a versé le parfum sur Jésus. Elle lui avait fait cet honneur aussi de penser à lui, d'acheter ce parfum de grand prix, de le verser sur Jésus. C'était juste avant. Donc, ils ont mis leurs vêtements. Et après, sur le chemin, on voit toutes ces personnes qui sont là, qui se dépouillent de leurs vêtements, qui les mettent sur le chemin, prêts à prendre le risque que l'âne, marche sur leurs vêtements. Et les esquintent complètement. Donc, c'était vraiment quelque chose qui donnait sans forcément s'attendre à les récupérer dans le même état. Et puis, les rameaux, ils ont été chercher des rameaux. Et j'ai pensé, ce matin, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont mis comme rameaux? Qu'est-ce qu'ils ont mis sur ce chemin? Moi, il me semble que dans les chants à cette saison, parce que Pâques, autant Noël, on ne sait pas si c'est la vraie date, mais Pâques, c'est la vraie date. Il n'y a rien dans les chants, il n'y a rien qui a poussé encore. Le figuier, on voit juste après cette scène, le Seigneur qui maudit le figuier parce qu'il n'y avait pas de fruits, mais il est dit, ce n'était pas la saison des fruits. Qu'est-ce qu'il y a sur les figuiers à cette saison? Il y a des petites feuilles qui commencent à pousser, il n'y a rien, pas de fruits. Donc, ils ont pu prendre des rameaux de figuier. Sans fruits, ils ont pu prendre ce qui avait été taillé de la vigne sans feuilles, des bouts des anciens, les sarments qui avaient été taillés. Et puis, ils ont pu prendre de l'olivier. L'olivier, c'est quand même, il y a des feuilles et c'est plus joli, mais c'est la saison où on taille les oliviers, donc c'est ce qu'on coupe, c'est des rameaux qui ne porteront pas de fruits et qui sont là. Voilà, qui n'ont pas de fruits. Donc, aussi bien tout ce qui a été jeté comme ça sur le chemin, on voit que ça aussi, c'est pas quelque chose qui peut durer, c'est pas des fruits, quoi. Il n'y a pas de fruits. Ça a été comme un feu de paille, un peu, cet élan vers Jésus, ça a été quelque chose d'éphémère. Parce que, bon, ben, voilà. Il n'y avait pas de fruits, il n'y a pas quelque chose qui peut manger, qui peut très bien. Et Alors peut-être je pourrais expliquer un peu ce qu'on a trouvé en réfléchissant à ce passage. Il y a dans l'Église catholique, en ce moment, il y a la semaine sainte, hein, ils sont très attachés à cette semaine. Et chez les Juifs, la Pâque, ça dure 8 jours. C'est ce qu'on a un peu, ce qu'on n'avait pas trop en tête, mais en fait, ça commence le samedi soir, donc hier soir. Et pendant 8 jours, c'est la fête jusqu'à la Pâque. Et donc les catholiques, la tradition, oui, aujourd'hui, ils amènent des rameaux. Ils amènent des rameaux à la messe. En souvenir de ça. Ces rameaux, ils sont bénis. Après, j'explique, hein, je ne dis pas, je vais faire pareil. Ils sont bénis par le prêtre, ils sont mis de côté. Et au début du carême, c'est-à-dire 40 jours avant la Pâque, au début du carême, qui représente le jeûne, hein, qui est quand même une période où on jeûne, où on est étreint par ce que le Seigneur a fait. 40 jours, c'est quand même long, c'est quand même une période complète dans la Bible, on le voit, hein, il y a 40 jours de tentation de Jésus, par exemple, dans le désert, hein. 40 jours de Moïse sur la montagne, etc. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces 40 jours aussi? Est-ce qu'on les consacre vraiment au Seigneur? Eh bien, au début de ces 40 jours, donc il y a le mardi de la. Comment ça s'appelle? Le mardi où on mange. Mardi gras. Mardi gras. Et le mercredi, les fidèles, ils vont à l'église et le prêtre brûle les rameaux et il fait un signe avec les cendres. Là, ça s'appelle le jour des cendres. Donc ça, c'est pour qu'on sache un petit peu mieux comment ça se passe. Et c'est des rameaux qu'ils ont conservés depuis presque un an. Voilà, donc c'est pour ça aussi que ce dimanche des rameaux a quelque chose d'important. Et pour les Juifs, c'est pas spécialement les rameaux, mais c'est une semaine de festivité. Et si on réfléchit bien, le Seigneur, là, donc c'était le dimanche, c'était vraiment le dimanche. Et après, il y a eu 4 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4 jours avant la crucifixion. 4 jours pendant lesquels, dans les évangiles, ça représente beaucoup de chapitres, ces 4 jours. Le Seigneur a vraiment, jusqu'au bout, a accompli sa mission. Jusqu'au bout, a tenté, enfin, je sais pas comment dire, a accompli ce qu'il devait faire sur la terre, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle, annoncer le royaume. Il a donné l'occasion, ils auraient eu l'occasion de l'accepter et de l'établir comme roi. Ils auraient pu le faire. Il leur a laissé encore ce temps-là. Et alors, on va lire encore je vais faire encore 5 minutes. Jésus dans le temple. Jésus entra dans le temple. Alors, il arrive à Jérusalem et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le temple. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses. Vous vous rendez compte, cette expression, les chefs et les prêtres, les spécialistes de la loi, les chefs religieux, qu'est-ce qu'ils sont? Ils furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Comment est l'homme, l'être humain, comment est-ce qu'on est? Parce qu'on est, au fond de nous, on a cette nature, hein, attention. On critique beaucoup les pharisiens, mais leur attitude, c'est une attitude qui existe. Hein. C'est pas, il n'y a pas qu'eux qui peuvent avoir des mauvaises pensées, des mauvaises intentions comme ça dans le cœur. À la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. Le Seigneur rappelle que Dieu, il utilise les enfants, les jeunes, les petits pour chanter ses louanges. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il voit tous ces désastres. En fait, le Seigneur ne se faisait pas d'illusions. Il arrivait sur cette année, il y avait tous ces cris de joie, d'accueil. Il savait très bien ce qu'il attendait. C'était pas, il n'a pas rêvé un moment et puis était déçu après. Il avançait vers son heure qui arrivait. Il savait que son heure arrivait. Et au fond de lui-même, il était triste, en fait. Il était triste parce que il nous est bien dit, on l'a lu, hein, dans Luc, on l'a lu dans Luc, il a pleuré. Il a pleuré. On voit que très peu de temps avant, il avait pleuré en voyant devant le tombeau de Lazare, il savait qu'il allait le ressusciter, mais il a pleuré en voyant cette misère de l'homme qui allait à la mort et qui pleurait, qui était, voilà, la vie, il y a des joies dans la vie, mais enfin quand même, il y a aussi tout ce qui va vers la mort. On est plusieurs ici à l'avoir devant nous. On a des parents âgés, des parents qui sont décédés tous ces derniers jours. On vit un peu dans ces difficultés avec des parents âgés, Guylaine, Marceline, et puis d'autres. Et ça fait de la peine. Et puis, on voit Esther qui se retrouve avec sa maman qui est toute seule. On vit ça. Il y a la joie du royaume, il y a la joie de l'éternité, mais il y a aussi les peines de la terre. Et le Seigneur, il avait une peine particulière, il avait ce baptême dont il parle. J'ai un baptême, j'ai à être baptisé d'un baptême, et combien je suis à l'étroit jusqu'à ce qu'il soit accompli. Il disait ça bien avant d'aller à la croix. Il avait ça qui le tenait. Voilà. Et donc il a pleuré, oui, je l'ai vu tout à l'heure, hein. Il a pleuré en arrivant à Jérusalem. Il a vu dans quel état était la maison de son père, dans quel état étaient ces chefs du peuple qui étaient censés les amener au salut et qui les emmenaient à la mort. C'était des aveugles qui conduisaient des aveugles. Mais bon, nous, comme croyants, on a tout ça, et comme Yvan l'a bien évoqué tout à l'heure, on a cette peine de voir Jésus qui a été à la croix. On voit cette douleur, on la rappelle, on la ressent, on ne peut pas la comprendre, on ne peut pas entrer dans ce qu'il a vécu. Mais c'est pas, on ne se lamente pas. On n'est pas là à se lamenter. On n'est pas là à se lamenter parce que l'œuvre de Jésus, elle est extraordinaire. Elle nous amène à la vie éternelle. Elle nous amène à quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus extraordinaire. C'est ça que Dieu préparait, c'est ça que Jésus a préparé. Et son chemin, il passait par là. Mais après, il faut bien se dire que le dimanche d'après, c'est-à-dire une semaine après, c'est pas long, une semaine après, Jésus était déjà mort et ressuscité. L'œuvre était faite, était accomplie, tout est accompli, tout est parfait, c'est accompli. L'œuvre de grâce est faite. La justice est satisfaite. Dieu est vraiment heureux de ce que son Fils a fait. Ça a été plus que difficile, mais l'œuvre est parfaite et Jésus est vivant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on dise, qu'on répète, dont on soit convaincu. C'est quelque chose de formidable, d'extraordinaire. Jésus est vivant. La mort, on l'a chanté, la croix. La croix, c'est pas une fin, c'est pas une défaite, c'est une victoire. La mort a été vaincue à la croix. La mort, la vie est victorieuse sur la mort. Et c'est pas la vie terrestre, c'est la vie éternelle. Gloire à Jésus. Vraiment, de nous donner la vie éternelle, qui ne finira pas, une vie heureuse avec lui. Pas une vie comme on a sur la terre, où si elle finissait pas, ça serait terrible, parce que on n'aurait pas envie, enfin, moi, pourtant, j'ai pas une vie malheureuse. Hein, moi, J'aimerais pas vivre éternellement sur la terre, franchement. D'ailleurs, même les patriarches qui ont vécu très très longtemps, ils disaient, bon, je suis rassasié du jour. Arrivé à un moment où les facultés déclinent, on est fatigué, on voit justement nos parents âgés qui se retrouvent là à l'hôpital avec de l'oxygène, avec dans un état. On dit, mais Seigneur, reprends-les, s'il te plaît. Et il attend, on ne sait pas, il attend des fois un peu plus que ce qu'on ferait nous. Il sait pourquoi, mais il les reprend. Il les reprend et de l'instant où ils étaient là à souffrir, à être. Et puis, à l'instant même, ils arrivent direct au paradis avec Jésus pour l'éternité. Gloire à Jésus. Vraiment, gloire à Jésus. Amen.